Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh. Yidelech prepare for Shabbos Kodesh. Joy is in the air for Shabbos Kodesh. Everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh. Everyone with a role to play to greet the Shabbos Kodesh.
Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du commentaire de la paracha de la semaine avec le grand rabbin Avraham Harold Weil, grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin. Bonjour monsieur le grand rabbin.
Bonjour Jean.
Un petit problème de voix aujourd'hui.
Un petit problème de voix, mais...
La santé va bien.
Grâce à la technique, je pense qu'on arrivera à faire l'émission.
Cette semaine, nous dirons la paracha de Vaishlar, l'allumage des bougies aujourd'hui avant 16h31 et demain, la Motsé Shabbat à partir de 17h32, les horaires voilà pour Strasbourg et sa région. Comme chaque semaine, notre message de Refoua Shelema pour toutes les personnes qui sont malades et une pensée particulière pour toutes les personnes âgées et isolées. Sans plus tarder, on commence par le commentaire de la paracha de la semaine. Commentaire et paracha très riche.
Donc, cher Jean, nous allons effectivement voir le résumé de cette sidra de Vaishlar, une sidra, comme vous l'avez dit, particulièrement riche, qui nous amène de rebondissement en rebondissement. Et nous commençons tout de suite cette paracha de Vaishlar par la rencontre à haut risque entre Yaakov et Esav. Rappelons-nous que Yaakov a dû fuir le domicile familial dans des circonstances vraiment particulières, sans le sou, pour se rendre chez son oncle Lavan et échapper à la vindicte d'Esav. C'était pour Yaakov un défi particulièrement important, mais Yaakov, on le sait, s'en est sorti particulièrement bien. Il est ressorti grandi de cette épreuve, puisque non seulement il a réussi à échapper à la fourberie d'Esav, mais il a également en parallèle construit une famille magnifique. 11 de ses 12 enfants sont nés dans la paracha de Vayetse, mais après 34 ans, eh bien Yaakov se doit et peut enfin retrouver sa famille, ses parents, qu'il n'a pas pu chérir durant toutes ces années. Et donc, après ces 34 ans, eh bien, vient le moment de cette rencontre avec Esav. Et même si 34 ans se sont écoulés, Esav n'a sans doute pas oublié ce que Yaakov lui a fait lorsqu'il lui a subtilisé ses bénédictions, ses brachot. Et donc, Yaakov va se préparer à cette rencontre. C'est ce que nous apprend le début de la paracha. Il y aura cette fameuse lutte avec l'ange tutélaire d'Esav, puis la véritable rencontre physique entre Yaakov et Esav, qui se passera finalement un petit peu mieux que ce que Yaakov envisageait et prévoyait, effectivement. Dans un deuxième temps, donc, Yaakov pourra rejoindre Eretz Israël, la terre d'Eretz Israël, mais nouvelle épreuve pour Yaakov avec le viol de sa fille Dina et ce qui s'ensuit, c'est-à-dire la vengeance de Shimon et de Lévi, une vengeance qui laissera d'ailleurs un goût particulièrement amer à Yaakov. Puis on demandera à Yaakov d'accomplir son vœu sans tarder. D'ailleurs, nos Chachamim nous disent que ce qui a valu l'enlèvement et le viol de Dina était le retard dans le vœu que Yaakov s'était engagé à accomplir. Donc Dieu demande à Kadosh Baruch, demande à Yaakov, pardon, d'accomplir sans délai le vœu qui était le sien. Et puis il y aura également un moment très important dans cette paracha qui est le changement de nom pour Yaakov, changement de destin, nouveau destin pour tout un peuple avec donc cette transformation qui avait déjà été amorcée, rappelons-le, par l'ange tutélaire d'Esav, qui avait donc promis un changement de nom à Yaakov, mais il est confirmé par Dieu un peu plus tard dans cette paracha, Yaakov qui devient donc Israël. Des événements également un peu plus tristes avec la mort de Rivka, la mort de Dvora et surtout la mort de Rachel avec l'accouchement de ce dernier fils pour Yaakov, Binyamin, et la mort de Rachel qui est un épisode particulièrement douloureux et très très dur. Ça c'était donc juste avant le changement de nom confirmé par Dieu et puis une longue partie à la fin de la paracha consacrée aux chroniques d'Esav. Ouais. Voilà comment se termine cette paracha de Vaishlar.
Il y a aussi la mort
Et bien sûr, juste avant, j'ai oublié, parce qu'on a parlé de la mort de plusieurs personnages importants. On a parlé de Rivka, on a parlé de Dvora, on a parlé de Rachel, mais il y a également la disparition, après celle de Rivka, de son mari Yitzhak.
Voilà.
Et c'est donc aussi un moment, on va dire, important, mais surtout riche aussi d'enseignements que cette mort d'Yitzhak, même si elle tient dans la Torah vraiment en très peu de mots, très très riche au niveau de son enseignement.
Alors, on va commencer par donc, la paracha. Dès le début, on nous dit que Yaakov a envoyé des anges avant de rencontrer Esav. ces gens qu'on dit anges, c'est quoi? C'est vraiment des vrais malachim, c'est-à-dire des anges avec ce qu'on peut imaginer, ou c'est une autre explication à donner?
Alors Rashi nous dit, c'est le premier Rashi de la Torah, il est très connu, Vaishlach Yaakov Malachim, Rashi nous dit Malachim Mamash. Rashi nous dit qu'il s'agissait d'anges, qu'il ne faut pas prendre donc le terme ici de Malachim, au second degré, mais qu'il s'agit bien d'anges que Yaakov aurait envoyé pour impressionner un petit peu Esav. Et vous le savez, le fait que Yaakov soit en mesure d'envoyer des anges qui puissent lui obéir, montrer toute la grandeur de Yaakov. Donc Yaakov ne cherche sans doute pas à s'enorgueillir devant Esav, mais à lui montrer que malgré toutes ces années, et malgré les difficultés qu'il a rencontrées, malgré toutes les tentatives d'assimilation, eh bien Yaakov est resté non seulement quelqu'un d'intègre, mais qui a encore cette hauteur à la fois spirituelle, à la fois psychologique, pour être capable de dominer en quelque sorte des malachim. Donc c'est quelque chose qui est de nature à impressionner Esav. N'oublions pas non plus, Jean, que ce choix pour Yaakov de défier en quelque sorte Esav, qui, après 34 ans, peut-être eh bien, se rappeler, avec des réminiscences bien sûr de ce qui s'était passé, mais qui n'a pas cherché lui-même à se confronter à Yaakov. Donc c'est Yaakov ici qui cherche la confrontation, et d'après le Midrash, eh bien, ça a été un petit peu reproché à Yaakov. Donc le fait d'envoyer de véritables hommes, même si certains parmi les Mefarshim pensent que Yaakov a envoyé de véritables émissaires, que ce n'était pas des anges, eh bien, le Midrash lui nous dit qu'en réalité, les hommes ont refusé, donc Yaakov a dû se résoudre à envoyer des malachim parce que les hommes n'avaient pas envie de se lancer dans cette mission qui était extrêmement périlleuse. Donc il y a quelque chose de très tendancieux ici et de très ambigu dans cette démarche qui est celle de Yaakov, de provoquer en quelque sorte un Esav qui lui eh bien, fait son chemin tranquillement et qui n'est pas en recherche ici d'une confrontation avec Yaakov.
Dans le discours de Yaakov qui tient à ses serviteurs, il dit quand vous allez rencontrer Esav, vous allez lui dire, et il y mentionne son séjour chez Lavan. Alors, quel message Jacob veut faire passer en disant ça à Esav? Ce qui veut dire on aurait pu passer toute cette ligne.
Eh bien, dans la continuité, Jean, de ce que l'on vient de dire, Yaakov cherche non pas à s'enorgueillir. On le sait, Yaakov est extrêmement honnête. Et il est tellement honnête que la manière dont il va se préparer à la guerre eh bien, témoigne de cette humilité. Yaakov ne veut pas s'appuyer sur ses mérites parce qu'il sait que malgré tous les efforts qu'il a engagés dans un défi qu'il n'a pas cherché, qu'on lui a imposé. Et je le rappelle, Jean, c'est important, ce départ de Yaakov est un départ douloureux. Yaakov aurait pu très mal le vivre comme une sorte d'injustice, parce qu'au fond, eh bien, il n'avait fait qu'écouter la parole de sa mère lorsqu'il est allé subtiliser les brachot.
Le fait qu'il était à Lavan.
Eh bien, insister sur le fait qu'il a résidé chez Lavan et qu'il est resté Yaakov, c'est quelque chose qu'il a aussi de nature à déstabiliser ça. Parce qu'être capable, même si bien sûr il avait fait 14 ans de yeshiva avant de se rendre chez Lavan, donc il s'était préparé spirituellement à cette rencontre avec Lavan, mais résider 20 ans chez Lavan, chez quelqu'un d'aussi tordu, qui a cherché par tous les moyens à faire de Yaakov quelqu'un d'aussi tordu que lui, et d'être capable de rester un homme droit, d'être capable de construire sa famille, de l'éduquer avec des valeurs, eh bien c'est quelque chose de remarquable et c'est quelque chose de redoutable pour Esav. Et c'est le message peut-être que Yaakov cherche à faire passer à Esav. Tu penses peut-être encore que je suis quelqu'un de tordu, quelqu'un de maladroit. Eh bien, sache que même ma confrontation avec Lavan pendant 20 ans bien, m'a laissé toute mon intégrité. Toi, tu as pensé que de par l'épisode des bénédictions, j'avais révélé ma propre personnalité, qui s'est révélée déjà depuis la naissance, puisque je te tenais déjà le talon et je cherchais en quelque sorte à te prendre ta place. Eh bien, sache que ce n'est pas le cas. Ça, c'est la lecture que toi, tu as de ma personne, c'est la lecture que tu as de ma vie. Mais moi, Yaakov, je suis un homme intègre, je suis un homme honnête intellectuellement, je n'agis pas en suivant mes instincts, je n'agis pas dans mon intérêt personnel, j'agis dans l'intérêt de la collectivité. Et il est important qu'Esav comprenne le message, qu'il comprenne qu'il a en face de lui quelqu'un qui n'a peut-être pas le mérite d'avoir pu habiter en Eretz Israël pendant toutes ces années, qui n'a peut-être pas le mérite d'avoir pu servir ses parents comme Esav l'a fait, qui est un exemple de kibbout avem, de respect dans la relation qu'il entretient avec ses parents, mais j'ai d'autres mérites. J'ai le mérite d'être resté moi-même et d'avoir gardé mon intégrité malgré la confrontation avec Lavan.
Alors, dans le texte, on dit que Yaakov a peur, et c'est étonnant parce que finalement, Akash Rokhu lui a répété plusieurs fois qu'il était derrière lui, qu'il ne s'inquiète pas, et pourtant, la peur est chez Yaakov. Qu'est-ce qui lui a fait peur?
Alors, Là aussi, Jean, vous avez raison, au début de la paracha de Vayetse, lorsque Yaakov quitte le domicile familial pour partir chez Lavan, et au moment où il va faire ce fameux rêve, eh bien Dieu va lui faire cette promesse de « Ushmarticha bechol asher teler »« Je te garderai partout où tu iras ». Donc il y a cette promesse qui est faite dans un moment très très intime que Yaakov va avoir avec Akadosh Baruch Hu, en lui disant « Ne t'inquiète pas, je serai là pour t'accompagner dans toutes tes difficultés ». Or cette promesse, eh bien elle devrait légitimement accompagner Yaakov dans la difficulté que représente sa rencontre avec Esav. Et Yaakov n'a pas de raison a priori d'avoir peur, car fort de cette promesse, eh bien il sait que cette rencontre ne peut que bien se passer et que ne peut que tourner en sa faveur. Et pourtant, il y a cette peur. Alors, cette peur, on peut la lire de plusieurs manières. D'ailleurs, vous le savez, Jean, le texte utilise deux mots différents pour qualifier ici la peur de Yaakov. Vaïra, Yaakov, vaïetzerlo. Il y a deux verbes qui sont utilisés, vaïra et vaïetzer. Donc, il a eu peur, il a été saisi d'angoisse. L'un fait référence à la peur qu'il a eue de se faire tuer et l'autre à la peur qu'il a eue lui-même de devoir, malgré lui, tuer Esav, parce que ce n'est pas ce que Yaakov recherchait. Yaakov souhaitait que les choses puissent s'apaiser, mais il a eu peur que la situation eh bien, ne lui laisse pas d'autre choix que bien, ou bien de baisser les armes, de baisser la garde et d'être la victime, ou bien de se défendre. Et Yaakov était Gibor. Ça, on l'oublie souvent. On a toujours l'image d'un conflit si totalement disproportionné avec un Yaakov faible devant un Esav qui va le massacrer. Mais Yaakov est Gibor. Ouais. Yaakov est quelqu'un de fort. N'oublions pas que Yaakov a soulevé tout seul la pierre que tous les bergers n'ont pas été capables dans la paracha de Vayetse de soulever. Donc Yaakov a des enfants qui sont extrêmement forts, Shimon et Lévi. Donc Yaakov est entouré de gens extrêmement puissants. Donc Yaakov ne craint pas cette confrontation avec Esav. Ce qu'il craint, et c'est peut-être ce que je voulais souligner, Jean, par rapport à votre question, en m'inspirant du Osnaïm la Torah, du Rav Sorotskin, c'est cette espèce de doute dans lequel Yaakov est par rapport à l'état d'esprit dans lequel est Esav. C'est ça ce qui fait peur à Yaakov, c'est qu'il ne sait pas si Esav se présente à lui comme un frère ou si Esav se présente à lui ici comme un ennemi. Et ce doute que Yaakov ne pourra éclaircir qu'au dernier moment, eh bien c'est ce qui fait peur à Yaakov. Parce que Yaakov est quelqu'un qui est dans la préparation, et lorsqu'on n'est pas capable de se préparer tout simplement parce qu'on ne connaît pas l'état d'esprit de la personne qu'on a en face, eh bien cela génère nécessairement une angoisse et une peur. La peur de l'impréparation.
Alors pour Amadou et Esav, Yaakov a un plan stratégique si on veut. Première fusée, on va dire, la prière, deuxième fusée, les cadeaux, est-ce que ce n'est pas le contraire qu'il aurait fallu faire ? D'abord, on fait les cadeaux et après la prière, effectivement, en dernier ressort.
Alors, vous parlez d'une fusée, c'est une fusée à trois étages, parce que vous avez oublié le dernier plan qui est le plan d'Yaakov, qui est la lutte physique, la bataille, la guerre que Yaakov ne veut surtout pas faire. Yaakov sait déjà que le clan d'Israël s'inscrit, le peuple d'Israël s'inscrit dans quelque chose qui est de la dimension spirituelle. C'est cette fameuse inscription sur le frontispice de notre grande synagogue, un passouk dans Zacharie qui dit « Plus fort que le glaive est ton esprit, le clan d'Israël a vocation à briller de par son esprit et pas nécessairement par la force. Bien sûr, on a gagné de grandes guerres, toujours aidé par Akadosh Baruch Hu, parce que lorsqu'il n'y a plus le choix, eh bien, cette guerre physique doit aussi s'inscrire et se réaliser. Mais Yaakov cherche d'autres solutions avant d'en arriver à la solution physique. La tfila, la prière, c'est toujours la première étape d'une préparation. Parce que la prière, qu'est-ce que c'est ? D'ailleurs, on va le voir dans la prière que Yaakov va faire à ce moment-là. Ouais. Il va immédiatement se référer à ses pères. Ouais. C'est-à-dire savoir que nous ne sommes finalement que la continuité d'une histoire. Une histoire qui a été écrite par nos parents, par nos grands-parents. Et s'inscrire finalement dans cette histoire et le proclamer. Proclamer que nous sommes la continuité de cette histoire, eh bien, c'est une forme d'humilité qui est nécessaire lorsque l'on s'engage dans une bataille telle que celle-ci. C'est-à-dire, ce n'est pas par mes propre mérite que je te demande à Kadosh Baruch Hu de me sauver, mais par le fait que je m'inscris dans une histoire qui a commencé bien avant moi, par des promesses qui ont été faites par mes pères, par des gens qui ont été plus méritants que moi, qui sont en l'occurrence Avraham et Yitzhak, et a fortiori, c'est une leçon pour nous aujourd'hui, des générations après, et c'est ce que l'on demande d'ailleurs souvent, que ce soit dans les tfilot, que ce soit dans les supplications, dans les tachanonim, dans les slichot, il y a tout le temps cette référence au mérite des ancêtres, parce que si Kadosh Baruch Hu ne le fait pas pour nous, qu'il le fasse pour nos ancêtres, qu'il le fasse pour notre histoire, pour ceux qui ont été capables de faire preuve d'une abnégation plus importante que la nôtre, et également pour les générations à venir, de ne pas briser cette chaîne plurimillénaire qui a pour vocation de mettre en avant l'honneur d'Akadosh Baruch Hu et de donner vraiment du sens à l'histoire du monde. C'est un petit peu dans cet état d'esprit que Yaakov commence par s'inscrire dans la prière, dans cette humilité et surtout dans le fait qu'il voyait dans sa rencontre avec Esav et dans la réussite possible de cette bataille avec Esav, eh bien uniquement ici la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, de lui donner la réussite.
Après la prière, il y a les cadeaux, et quand on voit les cadeaux, on les voit extrêmement nombreux et extrêmement chers. C'était pas trop pour Esav ?
On peut estimer que c'était trop. D'ailleurs, certains vont peut-être reprocher à Yaakov le fait d'avoir cherché absolument à amadouer Esav de cette manière, parce que, eh bien, parfois, c'est une technique qui fonctionne. Effectivement, lorsqu'on donne des cadeaux, on arrive un petit peu à attendrir la personne que l'on a en face de soi, sauf qu'on lui donne également du poids et qu'on lui donne parfois une force qui peut se retourner contre nous, parce qu'elle peut avoir par la suite de l'emprise, qu'elle n'aura pas forcément la conscience de cette dette morale qu'elle peut avoir vis-à-vis de nous, et qu'elle peut jouer après de cette emprise. On l'a vu notamment avec l'histoire de Hanouka, ou même plus tard, dans notamment des accords passés avec les Romains, qui leur ont donné une certaine emprise finalement sur nous. Donc ça peut être quelque chose de très très dangereux. Et si Yaakov voulait peut-être montrer, j'ai peut-être une deuxième lecture de tout cela, que bien toute cette richesse finalement ne lui servait à rien. Yaakov n'est pas quelqu'un, il ne poursuit pas l'appât du gain, il n'est pas quelqu'un qui s'inscrit dans la matérialité, il ne joue pas de sa supériorité. C'est aussi une manière de montrer son honnêteté intellectuelle. Yaakov n'a pas triché avec Esav, Lavan, dans le seul but de s'enrichir, parce que Yaakov est prêt maintenant à se départir de toute cette fortune pour le bien de l'histoire, pour le bien de son histoire, pour la sérénité de sa famille. Et ça, c'est vraiment très très important, et c'est peut-être dans ce nombre de cadeaux que Yaakov a envoyés qui vont presque le laisser finalement sans rien, eh bien sans le sou, la volonté de montrer qu'il n'était pas attaché à toute cette matérialité.
Alors quand Yaakov parle de Esav, il dit « mon Seigneur », quant à lui, il s'est fait appeler « ton serviteur ». Ça, c'est Yaakov qui flatte l'ego des sables. C'est une bonne stratégie pour lui.
Jean, on est ici, tout simplement, il y a bien sûr forcément une dimension politique ici, et bien sûr qu'il faut savoir, peut-être que Yaakov nous apprend aussi comment s'exprimer. Et
vis-à-vis lorsque vous êtes dans une puissance.
Bien sûr, vis-à-vis des puissants, et même lorsqu'on veut rétablir une situation qui est conflictuelle. Alors Yaakov a une démarche extrêmement humble de lui, de se considérer comme un esclave. C'est la démarche d'humilité qui est celle de Yaakov.
Enfin,
encore une fois,
qui a
cette conscience de cette fragilité qui est la sienne, et du fait de ne pas toujours, malheureusement, avoir pu être dans l'excellence, dans l'accomplissement des mitzvot. Et Yaakov le dit lui-même. Il a cette appréhension par rapport au fait qu'il n'a pas résidé en Eretz Israël, qu'il n'a pas pu servir correctement ses parents. Donc Yaakov sait qu'à ce niveau-là...
Esav, Seigneur, s'il y a quand même un pas à l'humilité, je veux dire, Seigneur pour Esav.
C'est une manière de montrer sa déférence, bien sûr, vis-à-vis d'Esav, et peut-être aussi de souligner ce que je viens de rappeler, c'est-à-dire la grandeur. Encore, on a tendance à considérer Esav comme le plus grand des Réchaïm. Esav, ne l'oublions pas, avait malgré tout un potentiel. Il a excellé dans certaines mitzvot. Et c'était peut-être aussi cela que Yaakov voulait souligner, qu'il n'y avait pas de confrontation, on va dire, personnelle. Il n'y avait pas de combat personnel à régler avec Esav. C'est quelque chose ici de beaucoup plus large, avec des enjeux qui sont beaucoup plus qui dépassent largement le cadre, on va dire, d'une simple jalousie ici entre frères. Et je pense que c'était important dans le message que Yaakov cherchait à faire passer à Esav de lui exprimer cela à ce moment-là.
Alors on arrive à la fameuse troisième partie de la fusée, c'est le début de la bagarre ou de la lutte entre Yaakov et quoi. Au début, on parle d'un homme, après on parle d'un ange. C'était quoi finalement ? C'était un ange ?
Là, vous faites allusion à un passage qui est comme presque une parenthèse finalement dans cette histoire, où Yaakov va se retrouver seul, nous dit le texte. Ça tient en très peu de mots. Ça tient en très peu de mots. Yaakov se retrouve seul. Vaivater Yaakov Levado, il y a un jeu de mots, il y a un jeu de mots souligné par Chazal, que Levado, le bête, est très proche de la lettre Chaf, et donc on peut le lire, Vaivater Yaakov Lechado, que Yaakov est resté pour de petites cruches, de petits objets qu'il avait oubliés, et lorsque Yaakov se retrouve seul, et bien lorsqu'on est seul, forcément, on se retrouve dans une situation de fragilité, et c'est cette situation de fragilité qui va provoquer cette attaque de celui qui, d'après nos maîtres, est en réalité l'ange tutélaire des Saves. Alors, Jean, pourquoi, dans ce cas-là, entretenir l'ambiguïté en nous disant « Vaillez avec Ish, Imo », que c'est un homme. Cette fois-ci, de la même manière que vous avez souligné l'ambiguïté dans le terme de Malachim, qui est utilisé au début de la paracha, et qui peut être, dans la Torah, tantôt des anges, tantôt des messagers humains. Là, on a l'air de cultiver aussi cette ambiguïté au travers de ce vocable de Ish qui est utilisé dans la Torah, va y avec Ishimo, que c'est bien un homme qui a lutté contre Yaakov et pas nécessairement l'ange tutélaire des Saves, un homme dans sa dimension physique. C'est ça ce qui est important ici de souligner, c'est-à-dire c'est une lutte ici, une lutte des priorités. Yaakov s'inscrit de plus en plus dans celui qui va être vraiment le porteur et le vecteur d'un patrimoine spirituel, d'un héritage spirituel. Et il se retrouve confronté à l'épreuve finalement de la matérialité. Et Yaakov va s'extraire finalement de cette épreuve de la matérialité. Certains d'ailleurs y voient ici une lutte, c'est un petit peu ce que semble suggérer ici l'Oznaïm la Torah, une lutte de Yaakov, une lutte interne, une lutte intérieure finalement, que Yaakov, qui a réussi à un petit peu séparer finalement sa dimension spirituelle de sa dimension matérielle, eh bien, va avoir contre lui-même. C'est la dimension peut-être spirituelle de Yaakov qui lutte contre sa dimension matérielle, et c'est finalement la dimension spirituelle qui va prendre le dessus. Donc on peut y voir même presque une lutte intérieure finalement ici de Yaakov, mais qui ne contredit pas forcément cette lutte qui serait contre l'ange tutélaire des Saves, puisque c'est cette dimension qu'Esav incarne, cette dimension de la matérialité absolue. C'est pas contradictoire.
Certains de nos sages disent finalement que cette lutte, c'est aussi un peu l'histoire du peuple juif. C'est-à-dire que même s'il est dans une mauvaise posture, à la fin, il sera toujours vainqueur. C'est aussi une des symboles pour l'histoire, cette lutte.
Oui, surtout que le verset nous dit, Jean, Adalot à Shachar, que cette lutte, elle va durer toute la nuit. Alors vous le savez, Yaakov incarne par définition l'exil, il est le symbole de la difficulté du peuple d'Israël dans l'exil, toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer face aux nations, qui l'ont malmené, qui l'ont maltraité, qui ont essayé tantôt de l'assimiler, tantôt de l'exterminer physiquement. Et il y a cette lutte la nuit. Pourquoi ? Parce que la nuit, lorsqu'il fait sombre, eh bien, nous avons une référence extrêmement claire à l'exil et à cette résilience. Mais Adalot HaShachar, lorsque le matin arrive, lorsque la lumière arrive, eh bien, c'est cette lumière qui finit toujours par triompher. C'est cette lumière qui vient sonner ici la défaite de cet homme qui est en train de lutter contre Yaakov. La lumière qui fait bien sûr référence aussi à la Torah, c'est la lumière de la Torah, la lumière de la vérité qui finit toujours à la fin par s'imposer. C'est elle qui va permettre à Yaakov de prendre le dessus sur cet ange tutélaire des Saves.
Alors malgré tout, l'ange arrive à faire toucher Yaakov sur la hanche. On parle de Guy Danaché. En fait, ça a une répercussion aujourd'hui puisque nous n'avons toujours pas le droit de manger de la hanche d'une bête. C'est par rapport à Yaakov, c'est ça ?
Tout à fait. Et vous faites remarquer quelque chose de très étrange auquel on fait peut-être pas assez attention lorsqu'on lit cet épisode de la Torah. C'est le fait que la victoire de Yaakov est proclamée au moment où il se fait toucher. C'est quelque chose de très paradoxal, puisque, a priori, eh bien, dans cette lutte, Yaakov ne reçoit pas de coup, il est dans une intégrité totale, et c'est au moment où l'ange va lui porter ce coup qu'on déclare la victoire de Yaakov. Ouais. Alors vous le savez, Jean, si vous avez quelques notions de sport, savez que même lorsque, par exemple, dans un combat de boxe, et pourtant je ne suis pas un grand expert en boxe, mais je sais que même lorsqu'une personne, à la fin, même lorsqu'il n'y a pas de KO, eh bien, comment est-ce qu'on va décider, comment est-ce que l'arbitre va décider de la victoire de l'un ou de l'autre des boxeurs, eh bien, c'est celui qui aura été capable de porter le plus de coups, en tout cas des coups importants et des coups décisifs. Or là, Yaakov semble recevoir le coup le plus important. Ce n'est pas un coup qui lui est fatal, mais en tout cas un coup qui va l'handicaper, qui va le faire claudiquer. Et pourtant, eh bien, c'est Yaakov qui est déclaré vainqueur. Pourquoi ? Parce que ce coup physique est porté par Esav, eh bien, ça montre justement son incapacité à argumenter. Lorsqu'Esav est à court d'arguments, dans une dispute qui, vous l'avez bien compris, n'est pas une dispute physique, c'est une dispute d'arguments, c'est une dispute spirituelle, c'est une dispute qui a une dimension bien plus large qu'une simple lutte physique. Eh bien, lorsque Esav est à court d'arguments, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il n'a plus d'autre solution que de frapper. Et dans ce geste, eh bien, Esav montre toute sa faiblesse. C'est là où il signe sa défaite. Et peut-être que le fait que Yaakov soit touché, et qu'il soit touché physiquement, et qu'il ait des séquelles au niveau physique, eh bien, cela va exacerber la responsabilité qui est la sienne au niveau spirituel. Yaakov n'est pas amené, et ses descendants ne sont pas amenés à être forcément des giborim, des puissants qui vont gagner toutes les guerres, mais ils devront avant tout briller par leur puissance intellectuelle. C'est ça ce que l'on attend de la part des enfants d'Israël.
Alors, il y a quelque chose d'étonnant. Il y a un ange ou un homme qui se bat contre lui, donc qui veut l'abattre, et après, à la fin, il demande une bénédiction. Quand je me bats avec quelqu'un, je ne demande pas la fin d'une bénédiction. Pourquoi Yaakov va demander cette bénédiction ?
Excellente question. Cette bracha que l'ange refusait, on le voit clairement, que l'ange refusait de lui donner. D'ailleurs, l'ange reste très mystérieux. Il ne veut pas la Mazetisha Lishmi, il ne veut pas dire qui il est, il ne veut pas dire son nom. Donc il y a un côté, bien sûr, très mystérieux ici, dans cette rencontre. Et l'ange va devoir finalement donner cette bénédiction malgré lui. Il ne souhaite pas la donner. Vous savez, ça fait un petit peu écho à cette Gemara qui nous dit que lorsqu'un homme rentre accompagné de deux anges le vendredi soir à la maison et qu'il a été capable de préparer Shabbat correctement, et que bien sûr il y a un ange qui est son accusateur et l'autre ange qui est au contraire un ange qui est son avocat, et qu'il voit la manière avec laquelle il s'investit dans le Shabbat, et bien il formule une bénédiction. Cette bénédiction n'est en réalité que la formulation de quelque chose de factuel, c'est-à-dire que je ne peux que constater que cette personne a réussi à s'inscrire dans l'esprit du Shabbat, qu'elle a été capable d'engager des efforts. Et l'ange qui est l'ange ici accusateur n'a d'autre choix que de répondre Amen. Il répond Amen malgré lui, mais il ne peut finalement que reconnaître ici cette dimension qui est une dimension factuelle. Et bien c'est exactement ce qui se passe. Yaakov veut entendre de la bouche de l'ange tutélaire d'Esav qu'il est Yaakov, qu'il est quelqu'un d'intègre et qu'il n'a rien volé. C'est la reconnaissance finalement de sa véritable personnalité, et c'est peut-être la reconnaissance ici de la part d'Esav de sa défaite et de l'incapacité qui a été la sienne à jouer son rôle.
Deux questions, deux minutes. Première question, c'est sur Rachel. Rachel donc est décédée suite à l'accouchement de Benjamin. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les sages donnent plusieurs explications à la mort de Rachel. On dit en général qu'elle a volé les téraphimes de son père, qu'elle a eu un accouchement très difficile. On donne d'autres explications, notamment qu'on ne peut pas marier deux sœurs en même temps.
Alors, je pense qu'il n'est pas nécessaire ici de s'arrêter sur les causes, mais plutôt sur la symbolique de la mort de Rachel à cet endroit, et Rachel qui va être enterrée en dehors d'Eretz Israël. Je pense que c'est véritablement le message ici important dans la mort de Rachel. Rachel, on le sait, cette symbolique, c'est celle qui va être capable de prier de par la puissance de sa tefila, et Rachel s'est toujours illustrée par la puissance de sa tefila. Elle a vécu des épreuves difficiles, complexes. Elle a vu son mariage avec Esav lui être shippé en quelque sorte par sa sœur, mais avec sa bénédiction, puisque rappelons-le, c'est Rachel elle-même qui avait été capable de transmettre à Léa les signes lui permettant de pouvoir se marier à Yaakov sans éveiller ses soupçons. Donc Rachel a fait preuve d'une abnégation et d'une résilience absolument incroyable, et elle incarne cette faculté finalement à prier pour les autres. Rachel, c'est celle qui est capable de faire abstraction parfois de ses propres difficultés, de ses propres douleurs, de ses propres souffrances pour l'intérêt collectif. Et donc Rachel se tient sur cet endroit qui est un endroit stratégique, parce que c'est le chemin de passage qui est incontournable pour les exilés. Et c'est donc Rachel qui va être capable de crier cette souffrance et de demander à Kadosh Baruch Hu qu'il ramène les exilés, qu'il mette fin aux souffrances du clan Israël. Et c'est peut-être la raison, sans doute en tout cas la raison pour laquelle Rachel est enterrée à cet endroit-là, c'est vrai. Du coup, elle n'est pas enterrée en Eretz Israël, on peut le voir comme une punition, mais c'est la force, on va dire, des grands hommes. Au contraire, quelle bracha, et surtout quel mérite que d'avoir ce rôle, que de pouvoir prier pour tous ses enfants, ses petits-enfants, pour toutes les générations à venir, afin d'apaiser leur douleur et leur souffrance.
Alors, la mort d'Isaac à 180 ans, entouré de ses enfants et de ses petits-enfants, et le texte nous dit « Isaac meurt âgé et rassasié de ses jours. » qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, il est Sva Yamim, mais il ne meurt pas Beseva Tova, comme c'est le cas pour Avraham, Avraham, Beseva Tova est mort dans une bonne vieillesse. Yitzhak est mort comblé par ses jours, mais on ne nous dit pas Seva Tova, et donc on a l'impression qu'il y a quand même une différence, qu'Avraham est mort de manière plus apaisé qu'Yitzhak, qui n'a pas forcément été comblé dans sa vieillesse. Il a été capable de surmonter toutes les épreuves, et c'est ça, Sva Yamim, c'est comblé dans ses jours, et tous les jours, c'est-à-dire même ceux qui ont été compliqués, même lors de l'épreuve de la Akedat Yitzhak, même lors de la difficulté qu'il a eue avec ses enfants, eh bien, Yitzhak a su prendre le bon côté des choses, il a su toujours tirer les leçons de ce qu'il a vécu, mais la différence entre Yitzhak et Avraham, on terminera avec ça, c'est qu'Avraham, lui, a pu mourir en assistant à la teshuvah d'Ishmaël et avec certaines satisfactions finalement dans la vie qui était la sienne, ce qui n'a pas été le cas de Yitzhak, qui lui n'a pas vu. Alors je l'ai dit, Sva Yamim, c'est cette capacité malgré tout à pouvoir Yamim, dans tous les jours qui ont été les siens de toute sa vie, eh bien, à pouvoir être comblé, c'est-à-dire tirer les leçons, ne pas avoir vécu ses épreuves systématiquement comme des attaques personnelles à son encontre, mais au contraire comme une manière finalement de se remplir, une manière de se construire. Voilà, se construire de ses épreuves, ça a été la force d'Yitzhak.
Alors évidemment, en 25 minutes, on ne peut pas parler de tout et de façon détaillée, on s'en excuse. Mais c'est comme ça la radio. Rendez-vous, monsieur le grand rabbin, la semaine prochaine pour une émission spéciale sur la fête de Hanouka qui avance à grands pas. Merci et Shabbat Shalom à monsieur le grand rabbin Harold Avraham Weil, grand rabbin de Strasbourg et du Bérin. Merci à Lucas pour la réalisation technique de l'émission. Et merci à vous tous de votre fidélité, de plus en plus nombreux, et de votre écoute. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.
Shabbat Shalom.
Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh, you did look prepare for Shabbos Kodesh, joy is in the air for Shabbos Kodesh, everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh, everyone with a role to play to greet the Shabbos Kodesh, a priceless gift, a spiritual lift, everyone finds a way.